soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 45. Et nous sommes avec Jacob ce soir. Donc Genèse, chapitre 45, à partir du verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan et prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Et je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Et tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants, pour vos femmes et amenez votre père et venez. Et ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Et les fils d'Israël firent ainsi, et Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon, et il leur donna aussi des provisions pour la route. Et il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin, c'était donc son frère cadet, 300 sicles d'argent et 5 vêtements de rechange. Et il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Et puis ils remontèrent l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Et ils lui dirent, « Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Alors ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et Jacob vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » Et Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, « Jacob, Jacob !» Et Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père, et ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » Et moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Alors Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux, les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Amen. Voilà, juste avant ce passage, après des années de séparation, presque 20 ans, Joseph se fait connaître à ses frères qui le tenaient pour mort. Et vous savez pourquoi ils le tenaient pour mort ? Parce qu'ils l'avaient vendu pour quelques pièces d'argent comme esclave à des marchands, voulant se débarrasser de lui. Et puis ses frères étaient descendus en Égypte pour chercher du grain, à cause d'une famine qui sévissait à la fois en Égypte et en Canaan. Mais Dieu s'était servi de Joseph pour constituer des stocks importants en vue des années de famine, 7 années de famine qui suivaient 7 années de grande abondance. Et donc voilà que Joseph et ses frères se retrouvent, et ses frères ne le reconnaissent pas, et il faudra que lui se dévoile. Mais à ce moment-là, Joseph n'est plus le petit frère, le chouchou du papa. Il est le premier ministre de l'Égypte. Et il parle avec autorité. Et Pharaon, qui est au courant donc de la chose, demande à Joseph de faire descendre sa famille, de renvoyer ses frères et de revenir avec Jacob et toutes les femmes, les enfants et les serviteurs en Égypte, pour qu'il bénéficie de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. Et Joseph, afin de démontrer la réalité de l'invitation de Pharaon, presse ses frères non seulement de ramener Jacob et tout le reste, mais il les fait accompagner de chariots vides pour transporter toute la famille et aussi de montures, des ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte. Et c'est ainsi que les frères vont remonter en Canaan auprès de leur père Jacob. Mais À ce moment-là, Jacob est un homme âgé, et c'est aussi un homme en situation de profonde souffrance. Jacob porte un vécu très lourd. Et c'est vrai que sa vie n'a pas été simple du tout. Elle fut une succession de coups tordus et de mauvaises nouvelles. Aussi, quand ses fils vinrent vers lui avec une nouvelle extraordinaire, mais totalement inespérée, inimaginable, eh bien, il ne réagit point. Son cœur est devenu insensible. Certaines traductions disent même que son cœur était froid, parce qu'il avait trop souffert. Et vous savez comme sont les hommes, à force de souffrance, en finir par endurcir son cœur pour se protéger. Peut-être est-ce votre cas aujourd'hui. Bien des choses ont pu rendre votre cœur sensible. Il n'était pas insensible, mais il est devenu à cause des épreuves, des souffrances, des pertes, des échecs. Et vous avez bien du mal maintenant à tout simplement bien réagir lorsque on vous parle d'espérance ou de bonnes nouvelles. Cependant, notre Dieu est le Dieu des miracles et des bonnes nouvelles. Et il est capable d'agir même dans des situations desquelles nous n'attendons plus rien. Et tout comme Jacob finit par se réveiller et qu'il s'écrie « Cela suffit !» Eh bien, je crois que Dieu veut réchauffer encore votre cœur et vous amener dans un nouveau temps de bénédiction. Et si ce soir, et si demain ou dans les jours à venir, vous receviez à votre tour une bonne nouvelle comme celle que Jacob reçut, la laisserez-vous réchauffer votre cœur? Et direz-vous, cela suffit? Ou alors vous enfermerez-vous en vous-même en laissant glisser cette parole sur votre cœur? Jacob était un homme dévoré par les contrariétés. La vie de Jacob fut donc une succession de combats, de brisements de cœur, et dès son plus jeune âge, Jacob n'avait appris la vie que par le pire. Il évolua dans des environnements où il développa un caractère marqué par le doute et par l'inquiétude, et tous ceux qui étaient évolués autour de lui contribuèrent, sa mère Rebecca y contribua. Elle amena Jacob à considérer que son père Isaac préférait davantage Ésaü, son frère, que lui-même. Et elle le convainquit même que Ésaü, son frère, voulait le tuer et qu'il devait fuir la maison. Son père Isaac contribua aussi à rendre le cœur de Jacob insensible, alors qu'il devait vivre plusieurs dizaines d'années encore. Un jour, Isaac se persuada qu'il était sur le point de mourir. Et sa femme, en ayant eu vent, ça précipita la mise en place d'un stratagème où quand Rebecca organisa afin que Jacob subtilise la bénédiction qui était promise à son frère Ésaü. Mais cela entraîna aussi l'explosion familiale. Son oncle Laban contribua à ce changement de cœur. Laban trompa Jacob en lui donnant Léa à la place de Rachel. Et combien de fois changea-t-il les termes du contrat de travail qui les unissait l'un et l'autre chaque fois que les circonstances évoluaient ou n'allaient pas dans le sens de Laban? Les épouses de Jacob contribuèrent à changer son cœur. Léa l'accusa de ne pas l'aimer, peut-être avait-elle raison pour le coup. Et plus tard, Rachel le blâma pour sa stérilité. Ses fils aussi contribuèrent. Jaloux de Joseph, ils revinrent tous vers lui, en portant le manteau magnifique de Joseph couvert de sang et lui faisant croire qu'un animal l'avait dévoré accidentellement, mais lui cachant la réalité des choses. Et ce jour-là, cette nouvelle infligea à Jacob une blessure violente et cet homme resta inconsolable à l'idée que son fils était mort ainsi. Et tous ces événements transformèrent le cœur de Jacob. Lui dont il est dit, lorsqu'il était un jeune homme, qu'il était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Un homme tranquille. Mais avec le temps, il était devenu un homme sur le qui-vive, harassé de fatigue, de douleur et de chagrin. Et quelque temps plus tard, quand il sera en Égypte, le Pharaon le rencontrera et l'interrogera sur sa vie. Et voilà comment Jacob résumera sa vie. « Ma vie a été mauvaise. » Je ne sais pas si au milieu de nous, certains se reconnaissent dans ce tableau, tout ou partie peut-être, au point de dire, vous aussi, j'étais un homme, une femme tranquille. Mais maintenant, je dois dire que ma vie a été mauvaise. Et alors, vous passez votre vie à n'envisager que le pire. Peut-être est-ce dû à une perte irremplaçable qui a brisé votre cœur, un parent proche, une personne aimée. Peut-être est-ce dû à une souffrance familiale, à moins qu'une personne n'ait trahi votre confiance. Peut-être est-ce lié à un échec dans les études, professionnellement parlant, ou dans des pressions que vous subissez jour après jour, et tout le temps, vous entendez ces voix qui ne cessent de vous dire « tu es un incapable, tu es un perdant, tu ne fais rien de bon ». Et tout cela, ces épreuves, ces déchirures, ces pertes, ces blessures, ont laissé des cicatrices profondes au plus profond de votre cœur, au point qu'elles ont complètement transformé votre caractère. Elles vous ont dévasté, et votre cœur est devenu froid comme de la glace. Les fils de Jacob revenaient donc d'Égypte avec une nouvelle extraordinaire, annonçant à leur père que Joseph est vivant. Et en plus, il gouverne l'Égypte, le pays le plus riche, le plus puissant de l'époque. Mais encore une fois, toutes ces paroles glissèrent sur le cœur froid, glacé de Joseph. Joseph était trop habitué aux mauvaises nouvelles pour en entendre une bonne. Son cœur n'était pas prêt à recevoir une bonne nouvelle. Et peut-être même refusait-il cette bonne nouvelle de peur qu'elle ne soit pas vraie. Il ne voulait même plus espérer en quelque chose tellement il avait été trompé. Et depuis tellement d'années, Jacob s'était imprégné de l'idée de la mort de son fils qu'il ne pouvait même plus concevoir qu'il pouvait en être autrement. Pour Jacob, et peut-être pour vous, la bonne nouvelle est trop simplement trop dure, trop bonne à entendre. Donc toutes les contrariétés et les blessures qui avaient frappé Jacob avaient en quelque sorte éteint la flamme de la foi dans le cœur de cet homme. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer de la part de Dieu. Seulement, quelle est la température de votre cœur ? Quelle est la température de votre cœur ce soir ? Est-il chaud comme le brasier de la foi ? Ou est-il glacé par le doute ? Si la vie a gelé votre cœur, au point que vous soyez insensible à toute bonne nouvelle, alors sachez que Dieu veut réchauffer votre cœur. Tout comme il réchauffa celui de Jacob, afin que vous accédiez à ce qu'il a en réserve pour vous. Nous avons le Dieu de la puissance infinie. Et le Dieu qui peut accomplir tout. Dans le meilleur moment, il sait comment agir, il sait quoi nous donner. Il peut prendre une situation comme celle que nous avons dans ce texte, une situation où nous disons « c'est impossible » et le transformer en « c'est vrai, Dieu est capable ». Car Dieu n'est jamais pris au dépourvu par une situation qui lui aurait échappé. Bien au contraire, tout le temps que Jacob pensait que Joseph, son fils, était mort, Dieu savait que Joseph était vivant. Il y a bien des situations qui nous échappent, mais jamais aucune n'échappera de la main de Dieu. Et donc les frères vinrent avec leur témoignage auprès de leur père. Mais leur témoignage demeura insuffisant. Ils avaient beau lui dire ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient, voilà, tout ce qu'ils avaient observé, mais Jacob semblait ne pas écouter. Heureusement, et certainement anticipant la réaction de son père, Joseph leur avait donné des paroles précises à transmettre à Jacob. Et puis il y avait aussi ces chariots, et ces ânes chargés des richesses de l'Égypte. Le témoignage des frères de Joseph était donc insuffisant. Je ne sais pas, peut-être que Jacob, en écoutant ses fils, Voulait-il essayer de les croire? Cependant, comment placer son espérance en ceux qui l'avaient trompé pendant tant d'années? Alors l'un d'eux amena son père devant les chariots et devant les ânes qui étaient là dehors en lui disant « Mais si tu ne crois pas dans ce que nous te disons, alors viens donc voir ce que nous ramenons. Viens voir ces chariots. Regarde, ils sont fabriqués en Égypte. Regarde ces ânes, ils sont chargés de toutes les richesses, de toute la graisse de l'Égypte. » Et c'est alors que Jacob se leva, qu'il regarda, et à ce moment-là, il dit « Cela suffit. » Ce n'est pas à ses fils qu'il dit cela, mais il dit cela à sa vie mauvaise. « Cela suffit. » Cela suffit. Pour la première fois depuis bien des années, je pense qu'un sourire commença à s'esquisser sur le visage de Jacob. Pour la première fois, l'espérance et la joie montaient dans son cœur et celui-ci commençait à se réchauffer. Alors il dit, cela suffit, mon fils Joseph est encore en vie. Il n'y a plus qu'une chose qui compte maintenant, c'est que je le vois avant de mourir. Et Joseph n'avait donc pas cru le témoignage, pardon, Jacob n'avait pas cru dans le témoignage de ses fils, mais il crut dans celui que Joseph lui envoyait depuis l'Égypte. Vous savez, nous venons vers vous, et nous, enfants de Dieu, nous apprenons cela, nous venons avec notre témoignage et nous vous disons ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons expérimenté concernant un homme en particulier que nous croyions mort, mais qui est vivant et qui règne sur un royaume d'abondance. Cet homme-là, il s'appelle Jésus. Et son père vous appelle à venir vers lui parce qu'il veut vous donner ce qu'il y a de meilleur dans son royaume. Alors avec votre témoignage, nous essayons de montrer et de vous montrer ce que nous avons reçu personnellement de lui. Nous voulons essayer avec nos mots, avec notre expérience, convaincre et peut-être vous convaincre ce soir. Et nous vous disons, autrefois, ma vie était dans le deuil, dans la tristesse, l'abattement. C'était véritablement un temps de souffrance, mais aujourd'hui, c'est des vêtements de fête. Ma vie est devenue une fête, ma vie a été consolée. Et peut-être avez-vous du mal à nous croire, parce que votre cœur est trop froid. Heureusement, Jésus nous a confié des choses bien plus précieuses que notre témoignage. Il nous a donné sa parole. Tout à l'heure, il a été dit que l'Évangile est la puissance de Dieu, c'est vrai. L'Évangile, c'est la parole que Christ nous a laissée. Et cette parole peut changer, peut réchauffer votre cœur. Et ce n'est pas tout, mais il nous a donné aussi son esprit. Son esprit chargé de toutes les richesses du royaume de Dieu. Et tout comme Joseph envoya vers Jacob des ânes chargés des richesses de l'Égypte, la graisse de l'Égypte, ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et des chariots pour transporter toute la famille, notre Seigneur nous donne par son esprit les promesses les plus précieuses du royaume des cieux. Et tout ça est un avant-goût de tout ce que nous aurons, de tout ce que nous recevrons lorsque nous serons dans son royaume, dans les cieux. Et particulièrement, le Seigneur nous envoie les richesses du pardon du péché. Délivré du péché, de ce qui nous tenait liés autrefois, de nos passions. Il nous envoie aussi un âne chargé de la guérison physique. Et Dieu guérit les corps, celui de la guérison intérieure. Et il y a tellement de richesses encore, tellement de bénédictions qui sont là et qui ne sont que des avant-goûts de tout ce qu'il a encore, encore et encore. Tant de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, est-il écrit. Et le Seigneur nous envoie sa parole, et il nous envoie ses promesses, afin que nous reprenions vie. Et ce soir, il y a certainement quelqu'un que Dieu connaît, et il voudrait que tu reprennes vie. Alors moi, je viens avec mon témoignage, je viens en prêchant la parole, mais je sais aussi que le Seigneur vient avec son esprit, avec des bénédictions et des réserves de grâce pour toi, afin que tu te lèves à ton tour pour aller à sa rencontre dans son royaume. Et alors, nous vous disons, nous te disons, viens avec nous. Nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Et nous savons que le meilleur, c'est auprès de lui. Alors, quand les fils de Jacob revinrent d'Égypte, ils apportèrent une bonne nouvelle à un homme brisé et au cœur insensible qui s'appelait Jacob. Mais à la vue des dons de son fils Joseph, Jacob reprit vie. Et c'est un autre homme qui se leva, celui-là s'appelait Israël. Celui qui avait lutté avec Dieu et qui avait été déclaré vainqueur. Et voyez-vous, quand cet homme était Jacob, il était dominé par ses blessures, ses douleurs, ses craintes. Mais quand il était Israël, il était un homme nouveau, un vainqueur, un prince au cœur rempli de foi. Et ce n'est pas Jacob qui alla vers l'Égypte, mais c'était Israël. Il se leva et il se mit en route. Et il rallia la ville de Beersheba au sud de Canaan. Et là, Dieu se révéla à lui, en quelque sorte pour le rassurer. Rappelez-vous, bien des années plus tôt, dans l'autre sens, lorsque Jacob fuyait la maison de son père Isaac, il partait au nord, et là, un soir, à Bethel, Dieu fit descendre l'échelle des cieux, et là, il se révéla déjà à lui à travers cette vision des anges qui descendaient, qui montaient. Et le Seigneur lui avait dit, je serai avec toi, je t'accompagnerai, je te ramènerai. Et maintenant, bien des années plus tard, à Beersheba, alors qu'une nouvelle fois, Jacob s'apprêtait à quitter Canaan, mais non pas ce coup-ci en fuyant. Mais le Seigneur lui dit encore une fois, je serai avec toi, je t'accompagnerai. Dieu lui promettait de le protéger, mais surtout, il lui disait que là-bas en Égypte, il verrait Joseph. Et que ce serait Joseph qui fermerait ses yeux. Et que plus tard, Jacob reviendrait dans la terre de Canaan. Alors je ne sais pas comment vous pouvez entendre toutes ces paroles que je viens de partager avec vous ce soir. Et je repose encore cette question. Quelle est la température de votre cœur ? Quelle est la température de votre cœur? Cette température spirituelle, morale, y a-t-il de la chaleur ou y a-t-il une couche épaisse de glace qui vous a saisi depuis tant d'années? Tant de situations, de paroles, de personnes qui vous ont heurté et qui vous ont rendu insensible au point que vous ne voulez même pas prendre le risque d'entendre et de recevoir une bonne nouvelle de la part des hommes ou de Dieu. Mais je veux vous dire, Jésus veut réchauffer ton cœur. Jésus veut réchauffer ton cœur. Et il te presse de répondre à son appel. Jésus est celui que les hommes ont rejeté. Ses frères l'ont rejeté, nous l'avons rejeté et nous l'avons vendu. Nous l'avons renié et il a été mis à mort. Mais nous n'avions pas idée que cela faisait partie du plan de Dieu pour notre salut. Car il a plu à Dieu que Jésus meure en premier afin de nous devancer, lui le premier, dans le royaume des cieux. Et Dieu n'a pas permis que Jésus reste dans la tombe, tout comme Joseph reste au fond du puits ou dans la prison. Mais Dieu est allé relever Jésus. Et si Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte en un jour, Jésus est devenu Seigneur et Christ par la puissance de Dieu. Et il est assis à sa droite sur un trône bien plus élevé que celui de l'Égypte, de toutes les nations de la terre. Et les richesses et la puissance qui sont à sa disposition sont bien plus grandes que toutes les richesses et les puissances de la terre et des cieux et de tout ce que vous voulez. Il nous a devancés auprès de Dieu. Jésus nous a devancés auprès de Dieu. Et il nous envoie cette parole. Venez vers moi. Venez vers moi. Venez vers moi. Et pour nous encourager dans ce sens, il nous envoie son esprit, chargé de toutes ses provisions célestes, de toutes ses grâces, de tout son désir de nous bénir, de nous manifester son amour. Et il nous dit, goûtez à cela, goûtez à la guérison, goûtez à la restauration, goûtez au pardon, goûtez à la délivrance, goûtez à l'espérance, goûtez à ma joie, à ma paix, à mon amour. Et je vous dis que cela n'est rien par rapport à tout ce que j'ai pour vous dans les cieux. Sommes-nous prêts à quitter notre situation ? Le pharaon insista auprès de Joseph, mais dis-lui bien, de venir, qu'il ne regrette rien de ce qu'il va laisser derrière, car le meilleur est devant lui. Ne regrettez pas ce que vous pouvez laisser dans cette vie, dans les promesses de cette vie. Et nous vous disons, tournez vers Dieu, allez vers Dieu. Ce qu'il a en réserve est beaucoup plus vaste que tout ce que vous pourriez espérer sur cette terre, que tout ce que vous avez pu accumuler dans cette vie. Mais ce soir, qu'en est-il de la température de ton cœur ? Devant l'appel de Dieu et devant les promesses et les richesses de son royaume, il t'appartient maintenant de faire comme Jacob. Toi, dont le cœur est peut-être insensible, devenu tellement froid, tellement dur, comme une glace les plus épaisses, il t'appartient maintenant de dire à tes peines, de dire à tes blessures, de dire au pire avec lequel tu vis depuis tant d'années, cela suffit. Cela suffit. Cela suffit, douleur. Cela suffit, souffrance. Cela suffit, échec. Cela suffit parce que mon Rédempteur est vivant, parce que Jésus est vivant et parce qu'il m'attend, parce qu'il a préparé quelque chose pour moi. Alors je ne veux pas vivre dans une vie mauvaise et je ne veux pas vivre dans cette vie parce que je m'enferme. Vous savez, à force d'avoir été blessé, les hommes s'enferment, se replient sur leur douleur. Ils vivent dans leur douleur, ils vivent même de leur douleur. Ils ne veulent plus rien entendre. Il t'appartient de te lever et de dire « Cela suffit !» Dieu ne m'a pas appelé, Dieu ne t'a pas appelé à lui pour vivre des jours mauvais. Il ne t'a pas appelé pour une vie mauvaise, mais pour des jours de paix, de grâce et de bénédiction. Et là, je peux m'adresser à un frère, à une sœur ce soir. Parce que Jacob était un homme de Dieu. Et ça faisait des dizaines d'années qu'il marchait avec Dieu. Pourtant, son cœur était froid, insensible, malgré la connaissance qu'il avait de Dieu. Et on pourrait dire, mais ce n'est pas normal. Mais vous savez, il y a peut-être des chrétiens, des frères, des sœurs qui marchent avec Dieu depuis pas mal d'années au milieu de nous, ce soir dans l'église ou parmi ceux qui nous regardent en vidéo, dont le cœur est devenu froid. Froid. Froid comme le doute, froid comme le désespoir. Et le lien qui les unit à Dieu devient tellement fin. Mais le Seigneur te dit, je ne t'ai pas appelé à moi pour que tu vives des jours mauvais. Je ne t'ai pas appelé à moi pour que tu vives des jours mauvais. Mais il t'appartient, mon frère, ma sœur, de dire aussi à ta situation, cela suffit. Cela suffit. Et tu peux dire cela parce que derrière, il y a l'autorité de Christ qui te le permet. Jacob pouvait dire cela à ses douleurs, à ses souffrances, parce qu'il y avait la démonstration de Joseph qui était vivant, qui était là. Alors maintenant, à cause de cette autorité de Joseph, il se levait face à tout ça et disait, mais ça suffit, mon fils est vivant. Et toi, tu diras, ça suffit, mon Jésus est vivant.
Ça suffit, mon Jésus est vivant. Il a triomphé de la mort, mais il n'a pas triomphé de la mort simplement pour lui. Il a triomphé de la maladie, il a triomphé de Satan, mais il n'a pas triomphé de la maladie de Satan simplement pour lui. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour nous. Pour que nous aussi, nous puissions dire « cela suffit ». Alors, ce soir, êtes-vous prêt à vous lever de votre situation de douleur et laisser votre cœur s'enflammer à nouveau? C'est un acte de foi. Et je le dis, j'essaie de le dire avec toute la délicatesse et pas l'emporte-pièce, parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un cœur. Et Dieu sait traiter avec nos cœurs. Il ne s'amuse pas avec nos cœurs comme on pourrait jongler avec des balles. Mais quand on lui confie son cœur, oh, Dieu veille dessus. Dieu veille dessus. Et il ne laissera pas tomber. C'est un acte de foi, un acte d'amour. Et si tu fais cela, non seulement ton cœur se réchauffera, non seulement ta vie se réchauffera, ce sera pour toi un véritable temps de restauration spirituelle, morale, et même physique, et même familiale, et même professionnelle. Ce sera un temps de réveil par rapport à une petite mort que tu traînes depuis tant d'années. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas même le Dieu des petits morts. Il est le Dieu des vivants. Et c'est pour la vie qu'il t'a appelé. Quelle est la température de ton cœur ce soir? Veux-tu le laisser se réchauffer? Veux-tu le confier à la main chaleureuse de Dieu? N'ai place ta confiance en lui. Nous allons incliner nos fronts. Nous allons prier. Et puis, je voudrais inviter, parce qu'on veut le faire, on priera peut-être rapidement parce que l'heure est avancée, mais je veux le faire quand même. Et je vais demander aux frères et sœurs de s'approcher. Je voudrais vous inviter, vous qui êtes concernés par ce message, vous qui connaissez ce qu'est cette petite mort, ce cœur de glace, et qui peut-être ce soir hésitez avant de confier votre cœur à la chaleur de Dieu, mais vous voulez dire, Seigneur, il faut que ça change. Ou alors tu es prêt à dire à ta situation, cela suffit, et tu as besoin encore d'une aide, d'une assistance du Seigneur. Alors je voudrais t'inviter sur le devant. Si tu te reconnais dans cette situation de Jacob, je voudrais t'inviter à venir sur le devant. Et nous allons prendre le temps de prier pour vous. Vous savez quelle est cette petite mort qui habite votre cœur, mais Dieu est le Dieu des vivants. Alléluia, alléluia. Et ce que vous faites, c'est déjà une démonstration de foi, de confiance. Je vais demander au jeune pasteur de prier, s'il vous plaît, aux frères anciens aussi de l'Assemblée. Venez, approchons-nous si Lise, tu peux nous accompagner par un chant. Alléluia. Et on va prier, vous voulez bien, on va prier pour que la grâce du Seigneur se manifeste. Amen, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Oui, nous le croyons, tu es le Dieu de la vie. Seigneur, nous n'avons pas crainte, nous n'avons pas, Seigneur mon Dieu, d'hésitation à te donner notre cœur, car tu n'es pas un homme pour jouer avec notre cœur. Tu n'es pas un homme pour jongler avec nos sentiments. Mais Seigneur, pour toi, notre cœur...